première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Le recteur a parlé, oui. C'est qui ?
Vincent Blondel.
Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette conférence de presse, un moment phare dans la vie de l'Université catholique de Louvain. Je suis le recteur de l'UCL et durant cette conférence de presse, on aura l'occasion d'avoir un échange avec à la fois le président du conseil d'administration, Jean Eliers, à ma gauche, et Anne Coeuringen, la directrice du musée, elle.
C'est un lieu de connaissance, mais pour connaître, il faut savoir aimer. Pour aimer, il faut savoir explorer. Et donc, le musée doit d'abord être un lieu d'exploration. Et pour explorer, il faut comparer. Pour connaître aussi. Donc, il faut confronter. Pousser les gens à confronter consiste pour nous à créer ces confrontations, parfois très évidentes, et le lien se fait, ou effectivement l'opposition se fait. Ou alors des choses beaucoup plus subtiles qui suggèrent aussi d'aller au-delà, de faire ses propres confrontations. C'est pour ça que souvent on change d'ailleurs, de manière telle que par le dialogue entre les œuvres s'institue un dialogue entre la personne et chacune des œuvres. Et ça c'est le suprême, et qu'un dialogue s'institue entre les gens qui viennent au musée, car il faut rappeler qu'un musée est un espace public, c'est-à-dire que où le public doit à la fois être accueilli mais aussi se sentir responsable de la qualité de sa présence et la partager avec les autres.
L'université, elle est héritière de très nombreux trésors.
Réouverture du musée elle de Louvain-la-Neuve avec Vincent Blondel, Jean Ingers, Anne Coeuringen, Jean-Marc Botson, Étienne Descartes, Guy Duplat, Carole de Ferrière, Emmanuel Druard et Sylvie de Drever.
Ces trésors, ce sont les collections de professeurs qui, parfois sur des décennies entières, pendant des carrières entières, ont collectionné des objets, et ce depuis plusieurs siècles, puisque l'université a près de 600 ans d'âge, des collections des professeurs, mais aussi des œuvres d'art ou des collections complètes par le biais de mécènes.
Ainsi que les voix de Ignace van de Vivere, 1938-2004, et d'Eugène Ruir, enregistré en 1997 avec Lise Coirier.
Mécènes qui sont en lien avec la communauté universitaire. Ces œuvres, elles sont extrêmement variées. Vous allez trouver des toiles de Delvaux, de Picasso, vous allez trouver des plâtres, vous allez trouver une collection d'art primitif, vous allez trouver des collections de papillons, des collections scientifiques extrêmement variées. Et elles témoignent aussi des dimensions universitaires et des dimensions présentes au sein de l'Université catholique de Louvain.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique me tento me tentententum stelé.
Le monde invisible.
Réouverture du musée Elle de Louvain-la-Neuve par Thierry Genicot. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Emmanuel Druard. Alors, au premier, c'est l'intitulé « Ceci est un musée universitaire », les fonctions du musée universitaire. Au deuxième, c'est « S'étonner », la grande diversité, l'incroyable diversité du monde. Et aussi « Se questionner », les collections scientifiques. Et aussi, au deuxième étage, « Transmettre », les vitrines « Écrire et calculer ». Au troisième étage se situent les collections d'art moderne. Au quatrième étage, il y a les collections de l'Antiquité, avec l'intégration des moulages, les collections d'art ancien, essentiellement religieux, et les estampes. Au cinquième étage se trouvent l'art populaire et l'art africain, et au sixième étage, la collection du docteur Charles Delsem.
C'est un musée qui est un musée universitaire destiné à la communauté universitaire, à la fois le personnel et les étudiants, mais plus largement, un musée qui est ouvert au grand public, qui présente sur un espace de près de 3000 mètres carrés.
L'idée est très simple, c'est que j'ai accompagné le déménagement et la partie construction, ou reconstruction en tous les cas, et ce que je voulais voir dans une exposition comme ceci, c'est comment, à partir d'un travail photographique qui est documentaire, comment on peut le sublimer susciter d'autres lectures. Ça, ça me semble quelque chose de très important. Il me semble que je ne suis pas resté, quand on voit ceci et quand on voit surtout le livre, parce que pour moi, le livre est le lieu idoine pour faire un rendu sublimé de travail documentaire. Et donc ici, c'est la présentation d'un livre que vous avez. C'est pour ça que j'en ai mis trois là. Et j'explique, sans être trop lourd, j'espère, sans être trop pédagogique, mais dans la projection qu'il y a là, on comprend comment on construit un livre, c'est-à-dire pourquoi on met telle photo à côté de telle autre. C'est ce qui donne un nouveau récit, en quelque sorte.
C'est un lieu de vie universitaire, à la fois dans sa dimension de recherche et d'enseignement. C'est aussi un lieu d'enseignement. Certains cours se donnent dans le cadre du musée. Vous allez voir qu'il y a des laboratoires aussi. C'est un lieu de recherche universitaire. Et puis, ça s'inscrit pleinement dans une dimension où aujourd'hui, les universités qui sont à la fois créatrices de savoir, dans la transmission du savoir, aujourd'hui doivent offrir dans une ère d'Internet où le savoir est très largement disponible à travers Internet, doivent offrir une expérience qui va au-delà de la transmission du savoir, entre autres à ses étudiants.
Anne Kerringer.
Voilà, bienvenue. Donc ça, c'est vraiment un mot qui est au centre, en fait, de notre travail. Donc c'est vraiment ce musée que l'on conçoit comme une maison d'hôtes. Et c'est les premiers mots aussi que j'ai dit aux architectes, Carole de Ferrière et Michel Lepage, il y a 5 ans. Je souhaite que ce musée soit une maison d'hôtes. Ils l'ont très bien compris. Je pense que l'entrée qui a été donc largement ouverte reflète cela, c'est-à-dire que le public est bienvenu. On ne rentre plus sur un petit chemin de traverse lorsque le bâtiment était à ce moment-là une bibliothèque.
Jean-Marc Botson.
Le musée a été fermé, mais il n'a pas été inactif. Et donc, il y a eu des fêtes et des choses comme ça. Ça, c'était une fête tango. Regarde le plissé de la robe qui rappelle le plissé que tu as dans le tableau, quoi. Je trouve que
c'est également la danse.
Oui, voilà, on est sur du festif, mais on est dans le festif aujourd'hui, je pense. Non ?
Allez, très bien.
Voilà,
très bien,
merci
mais
d'être
il
passé.
Y a encore tout le reste à voir.
Oh, je t'en prie, voilà. À bientôt, Guy. Ouais. Merci d'être passé.
Jean-Marc Botson, un mot sur l'architecture, sur l'écrin, qui est quand même très marqué. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire que c'est marqué, c'est-à-dire c'est un geste architectural dans toute son ampleur, hein, avec Jacquemin. Je pense que c'était le défi ici, c'est-à-dire, comme l'a dit Anne Kerringer tout à l'heure, en fait de ne pas masquer cette architecture-là par des artifices ou en mettant trop, non, mais justement de jouer, nous y voilà encore, du dialogue entre les œuvres et cette architecture. Ça c'est mon avis, mais je pense que c'est très réussi. Il suffit pour s'en convaincre de se mettre en bas et de regarder comment on a une vue progressive sur les différentes collections. C'est ça que je trouve chouette ici.
Et comme à l'extérieur, on se trouve face à du lierre qui grimpe,
oui.
N'est-ce pas, qui recouvre
la façade.
La façade.
Alors, il faut savoir quand même que c'est un des premiers, j'allais dire presque monument, mais c'est monument architectural presque, de Louvain-la-Neuve. Hein. C'était une œuvre emblématique et moi j'ai toujours beaucoup aimé ça. C'est-à-dire, nous allons faire la bibliothèque, nous mettons la bibliothèque au centre de cette ville universitaire. Je trouve que c'est un magnifique geste.
Vous avez pu photographier l'architecte à l'époque ?
Non, pas du tout.
C'est Sylvie De Drijver, service au public. Donc la grande richesse des collections du muséel, c'est vraiment sa diversité. Donc on a des œuvres de toutes les époques et de tous les continents, différents types d'œuvres aussi, de la sculpture, de la gravure, de l'archéologie, de l'ethnographie. On a certaines pièces maîtresses évidemment. Par exemple, on a un très beau Christ des Rameaux du début du XVIe siècle qui est repris dans le patrimoine en Wallonie, un trésor de Wallonie. La collection d'estampes en soi est vraiment une très très belle collection puisqu'elle va du XVe siècle au XXe siècle avec des grands noms de l'histoire de l'art. Ça va de Dürer à Picasso en passant par Rembrandt, Goya. Le fond de sculpture d'art africain est très très prestigieux aussi puisque ce sont des objets qui ont été collectés à l'époque coloniale et donc qui sont du niveau du Quai Branly ou du musée d'Afrique centrale à Tervuren. L'originalité aussi c'est d'avoir intégré le patrimoine scientifique de l'université et donc dans ce patrimoine il y a parfois des objets aussi très rares, très précieux, notamment dans les moulages en paléoanthropologie, il y a des moulages d'éléments qui ont actuellement disparu. Et donc il y a des chercheurs du monde entier qui viennent voir ces moulages, par exemple celui de l'homme de Pékin, parce que l'original a été malheureusement détruit.
dans les années 70. En fait, ma préoccupation quand j'ai photographié à l'époque, et j'avais fait un petit livre avec un ami qui s'appelle Jean-Paul Hirno, et ça s'appelait « Souvenirs d'une ville sans cimetière ». Et quand on photographiait à l'époque, c'était plutôt pour montrer la vie naissante dans cette ville, quoi. Mais on avait 20 ans et on y vivait aussi, et on montrait les étudiants qui allaient au cours en botte, etc. C'était pionnier.
Oui, car vous avez aussi étudié, me semble-t-il, à Leuven.
Alors, personnellement, j'ai étudié à Leuven. À l'époque, on faisait une licence en 4 ans. Et j'ai fait mes deux candidatures à Leuven, mes deux licences, ici à l'université, licence d'anthropologie.
Et comment éprouviez-vous ce splitting entre les collections à l'époque ? Vous vous souvenez ?
Ah oui, honnêtement, à l'époque, je ne pense pas que j'étais au courant. Quand vous parlez probablement des collections, ou fût-ce de la bibliothèque, quoi, qui était splittée, comme on dit chez nous, d'une façon un peu, enfin, tout à fait surréaliste. Hein.
De nombreux laits, toujours, aujourd'hui ?
Oui, donc on a encore accueilli récemment des collections.
Sylvie de Drèvre.
Donc par exemple la collection de Luc de Brabander qui a donné une collection de machines à calculer mécaniques qui est exposée ici dans la thématique sur le calcul. Et il est vrai que l'origine des collections, elle remonte à Leuven, où on avait au départ des collections didactiques. Et puis il y a toute une série de collectionneurs privés qui ont donné leurs collections à l'université. Donc c'est vraiment le musée de la générosité. Et pourquoi ont-ils donné leurs collections à l'université ? En fait, pour que ça serve à l'enseignement, à la recherche. Et donc le grand public est amené à découvrir ces collections.
J'allais dire, c'est une autocommande qui très vite a été suivie et aidée par les Amis du Musée. Les Amis du Musée, c'est une association dont je fais partie aussi, qui sont très 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 actifs. Et donc, j'ai eu les moyens de réaliser le travail comme je le souhaitais, c'est-à-dire, j'ai encore travaillé en argentique. Ça compte beaucoup ici. La manière de le faire compte beaucoup. Ici, c'est pas simplement prendre des photos comme ça. Et c'est eux d'ailleurs qui ont produit le livre.
Et donc ce dialogue existe aussi au niveau des collections scientifiques. C'est ce que nous avons essayé de créer avec différentes thématiques pour rentrer en résonance avec les collections qui nous viennent du patrimoine scientifique, du patrimoine artistique et aussi du patrimoine pédagogique et didactique de notre université. Et là, ça a été vraiment de la surprise. On a en fait des éléments qui ont été utilisés par les professeurs, qui ont été aussi fabriqués dans les labos, qui deviennent vraiment des œuvres d'art, qui peuvent être regardées comme telles et qui nous parlent de l'histoire des sciences et de l'histoire de l'enseignement. Et tout cela vit parmi les œuvres d'art.
Par le dialogue entre les œuvres s'institue un dialogue entre la personne et chacune des œuvres. Et ça, c'est le suprême, et qu'un dialogue s'institue entre les gens qui viennent au musée. Car il faut rappeler qu'un musée est un espace public.
Cette idée de dialogue du fondateur du musée, c'était de faire entre le contemporain et le passé ces correspondances.
Et aussi entre un art, je ne veux pas parler à la place de la directrice, mais il me semble qu'on peut le dire, entre un art naïf aussi, c'est-à-dire des amateurs, et voilà, et puis un art érudit. Il y avait tous ces dialogues-là, très certainement, interculturels aussi, et je pense qu'ici, on a franchi une étape de plus, puisqu'on le fait dialoguer avec des choses de la science, comme vous allez le voir.
Pour rendre ce musée chaleureux. Chaleureux, c'est un mot peut-être un peu galvaudé, mais j'y tiens. Donc c'est un mot qui inspire la rencontre, le confort. Souvent, les musées ne sont pas très confortables. Vous verrez ici que nous avons des sièges tout à fait confortables. On a des petits lieux de méditation, des lieux de rêverie, des petites bibliothèques. On a des lieux intimes et puis des grandes envolées monumentales. Donc c'est un musée où il y fera bon vivre.
Le musée, ce n'est pas simplement une réserve d'objets, mais c'est quelque chose qui propose des lectures, comme la photographie.
Jean-Marc Botson.
Et l'emmagasine, des archives, ça ce sont mes archives. Elle les fait lire d'une autre manière. C'est ça qui compte, c'est susciter des lectures.
Toutes les phrases sont intéressantes dans le contexte ici, parce que quand tu dis susciter des lectures dans une ancienne bibliothèque...
En plus.
C'est pas pour rien.
Je ne l'ai pas fait exprès. C'est vrai.
Faire dans un lieu qui a été une bibliothèque, mettre un musée plein de petits coins et de recoins qui est exactement en phase avec ce que c'est.
Oui.
Les collections du musée ne sont faites que de petits coins et de recoins.
Oui.
comme une espèce aussi de bibliothèque. Hein.
Absolument.
Donc, sauf qu'il y a là un lien.
Il y a des liens.
Allez, très bien.
Et les choix qui ont été pris au niveau de la muséographie et de la scénographie, c'est de laisser vivre l'espace architectural. Donc, ça n'a pas été de le camoufler par des œuvres, mais c'est plutôt d'inscrire les œuvres dans les courbes, dans des points de vue différents. Donc, de laisser vivre à la fois ce bâtiment de Jacquemin et de Wapps dans toute sa force et d'y inscrire les œuvres d'art. Je pense que le pari est réussi. Nous avons une scénographie qui n'a pas pris le pas ni sur le bâtiment ni sur les œuvres. Nous avons quelque chose de très sobre, élégant, esthétique, intemporel. Le blanc et le noir sont les couleurs qui ont été choisies. Ensuite, il fallait évidemment pouvoir parler de nos collections extrêmement diverses, puisque nous avons intégré les collections scientifiques. Et cela, c'était le pari. Et vous savez que notre ADN, depuis que nous existons, c'est le dialogue.
Ignace van de Viverer, 1938-2004.
C'est un lieu de connaissance, mais pour connaître, il faut savoir aimer. Pour aimer, il faut savoir explorer. Et donc, le musée doit d'abord être un lieu d'exploration. Et pour explorer, il faut comparer. Pour connaître aussi. Donc, il faut confronter. Pousser les gens à confronter consiste pour nous à créer ces confrontations, parfois très évidentes, et le lien se fait, ou effectivement l'opposition se fait, ou alors des choses beaucoup plus subtiles qui suggèrent aussi d'aller au-delà, de faire ses propres confrontations. C'est pour ça que souvent on change d'ailleurs, de manière telle que par le dialogue entre les œuvres s'institue un dialogue entre la personne et chacune des œuvres, et ça c'est le suprême, et qu'un dialogue s'institue entre les gens qui viennent au musée, car il faut rappeler qu'un musée est un espace public, c'est-à-dire que où le public doit à la fois être accueilli mais aussi se sentir responsable de la qualité de sa présence et la partager avec les autres.
Je suis entrée au musée il y a 4 ans, au niveau du service au public d'abord, après comme assistante de projet pour Anne Coringent, et en même temps responsable des collections de l'Antiquité. Qui est perçu, qui n'est pas vu, mais qui est perçu, qui est senti, qui est ressenti, quelque chose que l'on doit aller chercher, qui peut se partager, selon moi, et l'invisible, ben, il est partout. Il est partout. Pour la personne qui fait attention et qui croit tout voir, un leurre, on ne voit pas tout, c'est pour ça qu'il faut revenir, et qu'il y a de l'invisible, et c'est ça qui amène du charme, quoi.
Vous parlez de quoi, en fait ? Du karma ? De Dieu ?
J'ai la chance de vivre entourée d'œuvres, enfin en tout cas en journée ici, qui sont magnifiques, et voilà, de travailler sur des projets vraiment très, très, très réjouissants, très stimulants. Et que je pense que, oui, on découvre. Moi, je découvre plein de choses. Donc, je parle de ça, de l'invisible, de cet invisible-là. De ce qu'il faut aller chercher, il faut se rendre curieux. Tout n'est pas donné à voir, nécessairement. Et c'est ça qui fait le côté très subtil. Et, voilà. Après, je suis certaine qu'il y a toute une partie de personnes qui pensent voir la totalité. Fort heureuse, elle. Mais voilà, moi, je ne fais pas partie de celle-là.
Je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui a fait don de sa collection, et une collection très importante, ici, de gravures, Eugène Ruir.
Oh, c'était presque obligatoire à mon âge d'abord, ensuite les circonstances. Pendant 60 ans, j'ai réuni des estampes, donc de ci de là, avec amour, mais surtout dans une logique de réunir un ensemble d'estampes occidentales, donc européennes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Bon, j'ai fait ça au cours des 60 années, puis je me suis retrouvé seul, mon épouse étant décédée, sans héritier, qu'en faire ? à ce moment-là, il n'y a que deux solutions. Ou bien vendre, faire une très belle vente avec un beau catalogue dont on s'en souvient. Mais alors, que faire de tout cet argent? Sinon, recommencer une collection. Alors, autant garder la sienne. Je l'ai gardée. Et puis, je me suis souvenu que j'avais reçu beaucoup de professeurs, d'amis, et que je devais donner. J'avais encore rien donné. Et j'ai décidé de la donner pour qu'elle serve à d'autres. C'est tout.
Et comment l'a-t-on reçue?
Bien, on l'a reçue, si je puis dire, et bien pour reprendre la parole du conservateur qui l'a reçue, nous avons reçu un beau jardin et en même temps nous avons reçu le jardinier qui l'entretient.
Donc vous n'avez aucun regret
Non, d'ailleurs, il ne faut jamais avoir de regrets, ils sont inutiles et ici plus que jamais.
Pourtant, ils sont le titre d'un poème de Verlaine, je crois.
Oui, mais je ne suis pas Verlaine.
Eugène Ruire, enregistré en 1997 avec Lise Coirier.
Et pourquoi vous êtes-vous passionné pour la gravure?
Ça remonte loin. À 11 ans, lorsque, comme on le fait souvent dans nos pays, je faisais ma communion solennelle, on reçoit des petits cadeaux, un livre, une montre bracelet et d'autres choses. Et un oncle m'a offert un livre qui s'intitulait « L'art de reconnaître les gravures anciennes ». C'est un livre écrit par Émile Bayard vers les années 25. Je l'ai pris et le soir, ma mère me l'a confisqué avant que je ne l'aie même regardé parce qu'il y avait des gravures légères, des bouchers, des bonnets et autres nus, repos de Vénus et l'attente, l'indiscret, des tas de choses. Bon, à 16 ans, je l'ai reçu enfin et j'ai eu l'idée de réunir tout ce qui était dedans. Et c'est comme ça que ça a commencé, de fil en aiguille. J'ai fait ça à Liège où j'habitais, avec les gravures liégeoises. Puis la profession ultérieure m'a maintenu à l'étranger. J'ai commencé à fréquenter les grands marchands et ça m'a été très utile parce que je n'ai jamais bricolé en sens que les brocanteurs, la poussière, tout ça m'a été échappé et j'ai pu faire très peu, j'en ai fait comme tout le monde, très peu de bêtises et d'achats malheureux. Donc là, ça a été.
Ignace Van de Viveren, nous sommes dans votre bureau.
Bien, on a déjà fait pas mal de choses. On va d'abord travailler avec le jardinier, puisqu'il a parlé de cela. C'était une convention. Ensuite, on va enrichir le travail du musée que le collectionneur en question connaît, donc il est pour les grands principes d'accord, c'est-à-dire finalement ouvrir un lieu de promenade et un lieu de connaissance et articuler les deux. Ça veut dire que le musée est un lieu de délectation en même temps qu'un lieu où on apprend des choses et où on apprend à mieux connaître certaines choses. Ça veut dire que, naturellement, on interprète les choses. Mais cette interprétation, elle part d'un sentiment et d'une raison. Je crois que sur Ruire est un sentimental qui se cache, mais enfin voilà, je crois aussi que vous aviez raison de lui parler du désir, mais enfin, il rationalise les choses. Donc, cette interprétation qui vient de plusieurs lieux et qui va vers plusieurs directions, elle se doit d'avoir un garde-fou, de manière telle qu'elle ne se présente pas nécessairement comme un savoir, mais quelque chose qui donne du sens. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est une collection qui est idéale pour cela, car puisque c'est un musée qui se veut aussi un lieu où on travaille, notamment à l'université et pour l'histoire de l'art, c'est une des plus belles collections que je connaisse dans la gravure, puisqu'elle fait un parcours général de l'histoire de la gravure depuis sa naissance en Occident. Disons le 15e siècle, jusqu'à l'heure actuelle, en privilégiant, disons, dans les dernières années, l'art moderne. Et là-dedans, par exemple, Picasso, qui est un des coups de cœur, auquel n'a pas résisté, d'ailleurs, Monsieur Ruire, de même que l'expressionnisme allemand, autre coup de cœur. Il a des dehors comme ça très simples, très raisonnés, mais si vous voyez la collection, ben, on voit très bien les coups de cœur. Donc on a aussi valorisé ces coups de cœur, puisque c'est important aussi de montrer aux gens que les musées sont faits de collections. et que s'il y a des choses qui semblent manquer, comme disent les conservateurs, en réalité elles ne manquent pas, il se fait qu'il y a des choses là qui ont été rassemblées dans un certain ordre, un ordre qui est à la fois l'opportunité, la raison, mais aussi les sentiments, le désir. Et il faut montrer ça aux gens, il faut montrer que ça a du sens là aussi. Donc, si vous voulez, le sens que les gens ont donné à des œuvres est tout aussi important que les œuvres elles-mêmes.
J'ai pu à cette époque, il y a 20 ans peut-être, pu interviewer Eugène Ruire.
Oui.
Ce nom vous dit quelque chose ?
Bien sûr, bien sûr. C'est un des plus grands donateurs d'estampes du musée. Donc il nous a fait une donation en 1994. Et en fait, les œuvres qu'il nous a offertes étaient des pièces incroyables qui retracent toute l'histoire de la gravure.
Nous sommes devant une gravure de Picasso, le faune dévoilant une femme endormie, donc une planche de la suite Voler. Cette planche-là, je l'avais vue en 1939, donc j'avais 20 ans. C'était la veille du grand conflit. Une exposition de la gravure française avait lieu à Liège, dans les locaux de l'Académie des Beaux-Arts. J'y étais allé. J'étais tombé en admiration devant cette pièce qui était hors catalogue. Et je m'étais dit, c'est superbe. Bon, j'en ai rêvé. Évidemment, pas question de l'acheter à cet âge-là. C'était déjà très coûteux. Et chaque fois que je l'ai vue, soit dans des ventes publiques, soit chez des marchands, je n'ai pas pu parce qu'elle dépassait de loin mes moyens. Et ce n'est que tout récemment, à l'époque de la donation, juste après la guerre du Golfe, qui a fait chuter beaucoup de valeurs, qui a mis des gens financièrement dans l'embarras. Alors, suite à cela, les grands marchands qui avaient des frais de représentation, de location, des frais très importants, privés de leurs gros clients, ils ont dû absolument faire des coupes très sombres dans leur prix et j'ai pu me l'offrir. Voilà. Elle est ici, elle fait mes délices et je pense ceux des autres aussi, car c'est une des pièces maîtresses de Picasso, tout au moins de la première période, et c'est parmi toute sa carrière une de ses grandes pièces. D'ailleurs, il suffit de la regarder, indépendamment de la question technique qui est remarquable. Mais regardez ce faune, cette femme, ce n'est pas de la concupiscence qu'il y a dans son regard, c'est de la tendresse même. Pour moi, c'est une pièce très tendre et je m'étonne que j'aime tant.
Au-delà de ce dialogue entre la femme et le faune, il y a aussi ce dialogue de l'ombre et de la lumière qui est évidemment une donnée essentielle de la gravure. Et s'il n'en a pas parlé, c'est parce que c'est tellement évident pour un collectionneur de gravures. Mais c'est là, peut-être, cette ombre qui a toutes les nuances du plus noir au plus gris. Et puis cette lumière qui vient, au fond, darder comme le regard du faune et qui vient pénétrer dans cette chambre très close par cette fenêtre. C'est aussi tout Picasso, cela.
Donc, nous avons de magnifiques estampes du XVe siècle jusqu'à nos jours. Et donc, c'est ce que nous avons voulu aussi montrer dans notre exposition, c'est-à-dire que nous avons retracé toute cette chronologie, cette histoire de l'art, de la gravure, en partant donc des œuvres de Martin Schongauer et en finissant avec Henri Moore et peut-être bien d'autres artistes après, puisque bien évidemment, comme ce sont des œuvres fragiles, il faudra faire des tournantes et donc on va toujours renouveler comme ça l'exposition et offrir au public un plus grand panel au maximum.
Le début de cette aventure, ça a été la décision, et ce qui a ouvert un peu la destinée de ce musée, ça a été le fait de l'installer dans ce bâtiment emblématique de l'université, de son déménagement à Louvain-la-Neuve, celui de la Bibliothèque des sciences et des technologies. C'était un chantier énorme, c'était aussi un casse-tête opérationnel, mais c'était aussi une véritable opportunité, dans la mesure où cette transformation de la ville haute de l'université de Louvain-la-Neuve a été induite par ce nouveau projet. C'était l'occasion aussi de repenser cette bibliothèque. C'était la Bibliothèque des sciences. C'était aussi l'occasion de redynamiser l'accès au quartier.
Vous voyez par morceaux ?
Oui, sans doute.
Par désir ?
Par morceaux, certainement. Moi, je suis archéologue de formation, donc j'ai ce rapport au fragment qui est très, très, très là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'interpellant. Le fragment nécessite de l'imagination pour pouvoir le compléter. Il donne plein d'informations, rien que parce qu'il est fragmentaire. Je trouve que là, il y a quelque chose qui fait que il y a aussi beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Et on rejoint l'invisible, hein. On rejoint le non-visible peut-être.
J'ai consacré beaucoup d'argent à acheter des livres d'études qui m'ont permis alors d'acheter judicieusement et parfois de faire de bonnes affaires. Donc là, la connaissance plus que l'emballement ou l'affection.
Donc c'était un achat préparé par l'intelligence au profit du désir.
Non, il y a toujours un désir et j'ai jamais acheté que ce que j'aimais, encore que dernièrement, après la donation au musée, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de pointillistes. C'était normal, je ne les aimais pas. Mais j'ai jugé que c'était nécessaire, j'ai acheté 2 gravures pointillistes de Seurat et de Gross. Donc là, il faut toujours que le geste, l'amour, soit tempéré par la raison. C'est Georges Braque qui dit « j'aime la règle qui corrige l'émotion ». Je crois qu'il faut qu'on l'applique dans toutes les circonstances de sa vie, même ailleurs que dans la collection.
Jeanne Rouy, vous a-t-il fallu un pouvoir d'achat important à l'époque pour faire les acquisitions dont vous rêviez ?
Bon, là, c'est une question très simple et je pourrais y répondre très simplement. Après mes études universitaires, j'ai été engagé comme assistant à l'université. Or, vous savez, ce qu'un assistant gagne, c'est juste de quoi ne pas mourir de faim. Bon, après cela, j'ai été engagé dans l'industrie, dans des labos de recherche, et j'ai vu mes moyens croître. Mais néanmoins, je n'ai jamais eu, personnellement, je n'avais pas du tout de fortune. Quand je me suis marié, j'ai emprunté de l'argent pour acheter des meubles, et petit à petit, en raisonnant et puis en faisant des provisions, en ayant une vie simple, j'y suis arrivé. À la fin de ma carrière, les moyens ont augmenté, c'est certain, mais ils ont toujours été proportionnels à mes achats et toujours trop faibles. On vit toujours sur un train plus grand que celui qu'on peut assumer. Et alors c'est comme cela. Et puis il faut réfléchir et puis vendre. J'ai comme ça fait une collection de gravures de Van Ostade. J'ai pu en 15 ans réunir l'ensemble des gravures dans des états superbes, au moment où c'était bon marché. Et bien, je l'ai revendu très très cher, et le propriétaire qui me les a achetés, un ami, vient de les revendre, il vient de pacher ses Sotheby's, et là, comme c'est en vente publique, je peux dire, ça fait 8 millions. C'est comme ça que ça va, et avec cet argent-là, on peut acheter autre chose et faire d'autres choses intéressantes.
C'est donc un musée qui devra évoluer, les œuvres, alors pas toutes, mais évolueront, le dialogue entre elles aussi, et fondamentalement le but est que le public puisse revisiter ce musée après l'avoir découvert une première fois, et qu'il y ait aussi avec lui un lien au travers du temps. Et puis dernier élément, j'en terminerai par là, cet espace de découverte, ce sera, je pense, plus qu'une simple visite d'un musée, c'est aussi un espace d'expérimentation, avec les laboratoires d'études des œuvres d'art, avec les 3 laboratoires d'expérimentation qui permettent d'apprécier les œuvres d'art, mais aussi les toucher de manière sensorielle, les aborder par la pratique, ou l'aspect concret, la sensibilisation des différentes techniques de gravure, de sculpture, et donc de passer quelque part du regard au toucher. Et c'est ça qui est important, et c'est finalement peut-être pour ça que le musée Elle porte aussi bien son nom. C'est le musée Louvain, c'est le musée du lien, et c'est sans doute le musée des labos, parce qu'il n'y en a jamais eu autant dans un musée. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, sa spécificité.
Tout au début, donc en Occident, au XIVe, au fond, la gravure qui reprenait uniquement des sujets bien précis, l'iconographie religieuse, avait un but de propagande. Donc c'était de la propagande, et peu importe la qualité esthétique, on la soignait parfois, c'est certain, mais peu importe, c'était un objet de propagande. Ultérieurement, comme vous le dites, c'était une reproduction d'image, c'était transmettre une image qui, pour un artiste, prenons le cas comme Rubens, était encore sa publicité, et en même temps donner à un public moins fortuné les moyens d'avoir une œuvre convenable, tout au moins d'avoir le souvenir de la peinture qui est dans le palais de X ou Y. Mais ce n'est que tout récemment, après la Révolution française, quand l'homme, l'artiste, s'est senti tout à fait indépendant par rapport aux mécènes, les mécènes royaux ou de l'Église, alors il a dû vivre par lui-même et a fait des sujets qui devaient plaire, qui devaient entrer dans les maisons bourgeoises par leur format plus restreint, et en même temps, l'idée de reproduction a disparu à ce moment-là. Actuellement, on sert encore de la reproduction par l'image, mais alors c'est photomécanique, ça n'a plus aucun rapport avec l'air.
Et au musée, vous faites quoi au juste ?
Au musée, j'ai travaillé pour le projet dans ses aspects liaison entre les équipes du musée, l'équipe de scénographie Kinkorn, les architectes de l'UCL et un aspect avec Patrick Titeka qui était un aspect de mécénat, de recherche de fonds.
À la croisée des chemins.
Voilà.
Et puis les architectes de l'UCL, Carole de Ferrière et Michel Lepage peuvent s'identifier aussi, voilà.
Les architectes, les bureaux d'études qui ont entouré le chantier de transformation du bâtiment. Et puis il y a les scénographes, à nouveau l'équipe du musée qui a été très très présente. Ça fait vraiment beaucoup de personnes et une grande aventure humaine. Et moi je suis architecte à l'Université catholique de Louvain. Ça veut dire que je travaille comme architecte, en tout cas dans le cadre de ce projet-ci. L'université a décidé de faire confiance à ses architectes et nous a mandatés pour transformer le bâtiment.
Avez-vous été à Genval ?
Oui, en effet. Je suis allée rencontrer André Jacquemin avec Michel Lepage, avec qui nous avons étudié ce projet. Et nous sommes allés le rencontrer pour lui expliquer d'abord qu'on souhaitait installer le musée à la place de la bibliothèque et ensuite pour avoir son aval sur la manière dont on allait procéder.
Carole de Ferrière.
Et qu'a-t-il dit ? Dans un premier temps, on touchait à ce qu'il avait fait, mais il en était très heureux parce qu'il se rendait compte que c'était une nouvelle vie qui était offerte à son bâtiment. Et ensuite, il nous a souhaité bien du courage parce qu'il nous a dit, à juste titre, que ça n'allait pas être simple.
Le bâtiment, on l'a connu du temps où il était bibliothèque. On entrait par une petite porte dérobée, on descendait. Et alors là, Jacquemin a donné vraiment carte blanche aux architectes de l'UCL, Michel Lepage et Carole de Ferrière, et eux ont eu cette excellente idée de faire une ouverture latérale, hein, la grande ouverture maintenant, qui non seulement apporte la lumière, mais en plus faire entrer le visiteur dans le sens de la construction. Donc tous ces voiles de béton, eh bien, on pénètre dedans. Donc il y a une idée vraiment d'entrée à la fois de lumière et physique qui se fait dans ce béton, qui est pour moi tout à fait remarquable.
Alors ça n'a pas été simple parce qu'un musée demande l'installation de beaucoup de techniques, d'être très pointu au niveau de l'éclairage. Et ici, avec le bâtiment qui ne dispose que de 2,20 m de hauteur nette sous plafond, c'était très compliqué d'arriver avec cet éclairage et puis toutes les autres techniques nécessaires à l'accueil des œuvres.
C'est un musée où j'ai appris qu'il y a 1000 amis.
1000 amis, ben je pense que Ignace Van de Vivre est là pour quelque chose, ça c'est certain, parce que maintenant on s'interroge parfois.
Sylvie de Drèvre.
Sur l'âge de ses amis, donc qui fait que effectivement, voilà, c'est des amis qui sont fidèles, c'est des amis qui sont venus, je pense, pour une relation humaine au départ, un soutien humain. Et ils sont extrêmement précieux, ils nous ont donné des coups de main à toute étape du projet. Ils posent des questions, ils font du bouche-à-oreille par leur présence physique dans le musée aux visiteurs, ils ont le souhait de partager. Donc non, c'est bonheur, c'est bonheur. Maintenant, 1000, oui, il y a une volonté et c'est en train de se mettre en place d'avoir des jeunes amis, donc qui sont des étudiants, qui sont sur le site ici, qui vont stimuler des activités avec des étudiants, une information dirigée plutôt vers le public étudiant. Je pense que c'est une bonne chose aussi.
Carole de Ferrière. Alors, en termes d'architecture, le bâtiment, il se voulait déjà emblématique, très caractéristique, un peu en dehors des sentiers battus. On sent vraiment qu'à l'époque, l'architecte, qui est un architecte au milieu des années 70, qui fait une architecture moderne, ici, il avait envie de mettre un petit plus qu'on retrouve dans l'utilisation du béton, mais surtout au niveau des formes, des courbures. C'était un bâtiment qui était destiné à une élite universitaire, donc très introvertie. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu un petit peu modifier. Et là, on est intervenu volontairement puisqu'on voulait un musée ouvert. Après, c'est un bâtiment qui a énormément de caractère, une ambiance très très forte. L'architecture est très présente. Comme disait la directrice, il a fallu jouer avec ça pour eux ensuite pouvoir installer les œuvres et dialoguer avec le bâtiment.
Souvent, c'est des professeurs, mais ce n'est pas uniquement le cas. Donc, parfois, ce sont des personnes qui sont complètement étrangères à l'université, donc ils n'ont même pas spécialement été étudiants, mais qui, à un moment donné, il y a une rencontre qui s'est faite avec ici le musée, la direction du musée, et qui, pour la raison que je viens de citer, qui est de permettre aux étudiants, aux chercheurs actuels de travailler à partir de ces collections, eh bien, c'est la raison qui les motive à donner leur collection ici à l'université.
Alors, on a une politique tarifaire extrêmement démocratique. Donc, pour une visite pour un adulte, c'est 6 euros. Pour les autres personnes, c'est 3 euros. Pour tous les étudiants et tous les enfants et tous les enseignants, c'est gratuit. Alors, on a également l'article 27. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Donc, ça, on prend les articles 27. Et pour toutes les personnes porteurs d'handicap, c'est 2 euros.
Sylvie de Trèvre.
La collection du docteur Charles Delsem, qui est un collectionneur amateur d'art, qui s'est fait très bien conseiller par des marchands d'art, donc qui a acquis de très belles pièces. Ses objectifs en termes de collecte étaient uniquement ses coups de cœur et l'interaction d'une œuvre avec une autre, que ce soit au niveau formel, que ce soit au niveau stylistique, mais pas du tout un lien au niveau des périodes chronologiques et non plus au niveau de la chronologie et de la géographie. Donc il n'y avait rien comme lien, c'était vraiment quelque chose de visuel pour lui. Il fait des rapprochements, comme on peut trouver ici, avec l'Athéna en marbre d'époque hellénistique, un dessin au fusain de Giglioli, une sculpture d'une mère à l'enfant, d'une vierge à l'enfant d'époque gothique et une sculpture indienne. Donc quelque chose de tout à fait contrasté au niveau de la chronologie et de la géographie, mais qui au niveau visuel fonctionne très bien, donc avec vraiment des dialogues qui se mettent. La collection Charles Delsem, c'est celle qui a initié le musée du dialogue. Donc on retrouvait dans l'ancien musée, qu'on a voulu rejouer ici, à cet étage-ci, et avec la volonté des scénographes de mettre en valeur le côté appartement du collectionneur. C'était donc Charles Delsem que vous voyez là en portrait. Il avait donc dans son appartement, avec des planchers, toutes ces œuvres d'art qui gravitaient autour de lui, autour de son bureau qui se retrouve là, ou des mobiliers d'intérieur qu'on trouve dans l'autre, de l'autre côté de l'espace. Et donc la volonté était de recréer vraiment cette atmosphère, avec aussi la volonté, puisqu'on se trouve ici dans l'élan qui est la contemplation, contempler, c'est de ne pas mettre trop d'informations aux visiteurs, donc de ne pas mettre un cartel à côté de chaque œuvre, mais par contre, le visiteur qui souhaite avoir les informations, il se retrouve dans les livrets qui se trouvent là, et avec quelque chose de très visuel, parce que si vous l'ouvrez, vous voyez que le plateau...
Delsem, j'ai entendu. Étienne Descartes.
Charles Delsem, un donateur du musée. En 1990, nous avons accueilli sa collection, qui couvre un peu toutes les époques, toutes les cultures, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle.
Ce que je vois de l'art construit...
La préhistoire, il y a notamment un tout beau vase néolithique chinois.
Le plateau est reproduit au niveau d'un détouré. Donc voilà, au niveau d'un détouré, toutes les œuvres sont reproduites. Et donc au niveau visuel, on arrive très très bien et très vite à se situer avec l'identification de l'œuvre. Mais la volonté a été respectée, celle de Charles Delsem, qui était d'abord de la contemplation avant l'érudition. On reste dans un cabinet d'amateurs plutôt qu'un cabinet de grands collectionneurs, savants collectionneurs. Donc il y a quelque chose de subtil qui se joue là. On sait très bien, et on s'attend, le musée d'abord ne peut pas plaire à tout le monde dans les façons et les partis pris qui ont été choisis, et que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être agacées par le fait de devoir de prendre une documentation supplémentaire pour pouvoir lire. Mais voilà, bon, c'est quelque chose qu'on a poussé, qu'on a tenu, on va dire ça comme ça.
Comment se fait-il qu'il y ait tant de richesses quant à l'art naïf ou l'art populaire ?
C'est un couple de donateurs en particulier, qui est Micheline et Noubar Boyadjan, qui ont été très généreux parce qu'effectivement, ils ont donné leur collection d'objets d'art populaire, d'art naïf. Micheline Boyadjan était elle-même peintre naïf et a aussi donné des peintures qu'elle a réalisées.
Je vous propose, c'est qu'on redescende. Moi, je suis prête à répondre en bas à des questions plus ponctuelles sur les collections, sur le projet du musée. Et n'hésitez pas aussi, se trouvent des personnes qui sont identifiables dans les équipes du musée par le papillon, qui sont en général des responsables de collection.
Les amis du musée Elle, donc c'est près de 1000 membres. Ils font des visites d'ateliers d'artistes, ils font des escapades, des excursions. Et c'est grâce à tous ces amis, petits comme grands mécènes, en fait, qu'on a réussi à faire ce projet.
C'est D-E-L-S-E-2-M-E.
Voilà, ce beau vase avec motif décoratif en chevron. Et alors, ce qui est intéressant chez Delsem, c'est qu'il faisait des liens entre les œuvres. Et donc, on a ces deux couleurs, ce pourpre sombre et ce noir.
Étienne Descartes.
Qu'on retrouve en grande partie dans ce tableau de Hartung. Et donc, lui nous a imposé, en quelque sorte, des rapports entre les œuvres, se disant, tiens, que ce n'est pas simplement une œuvre plus une œuvre, il y a un plus, une sensation complémentaire qui se fait vu le rapprochement de ces œuvres.
Comme on voit aujourd'hui chez les antiquaires, mettre ensemble des pièces d'époques différentes.
Oui, oui, oui. Là, il faut dire que c'était donc donné en 1990, lui avait fait ça. On le faisait déjà, nous, au musée, à partir de l'inauguration en 79, avec notamment la première donation du musée, c'est-à-dire les œuvres du Moyen-Âge et des temps modernes, du Lé Van Am, et des œuvres abstraites de Delahaut. C'est une longue histoire, ces rapprochements.
Delsem. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour être venu, l'attention que vous prêtez pour le musée, et puis au plaisir de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus, et revenez.
Je peux vous interviewer ?
Oui, oui, tout à fait.
Je voudrais vous poser aussi maintenant, vous pouvez sur le bureau.
Oui, sur le bureau.
Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Candidat, qui l'a fait.
Alors, je vous donne le responsable de la collection Charles Delsem.
L'injonction de Delsem de dire, moi, ma collection forme un tout voulu. Donc, je ne souhaite pas qu'elle soit dispersée, parce que c'est un signe de non-mort. Et je veux aussi qu'elle serve la communauté.
Ouvrir un lieu de promenade et un lieu de connaissance, et articuler les deux. Ça veut dire que le musée est un lieu de délectation en même temps qu'un lieu où on apprend des choses et où on apprend à mieux connaître certaines choses.
On n'a pas vraiment la politique du chef-d'œuvre au musée, mais non, à titre personnel, donc comme moi j'ai fait la sélection au niveau de la collection d'art africain, il y a une porteuse de coupe africaine, Louba, qui est très très belle et qui, moi, est mon chef-d'œuvre.
Ça veut dire que, naturellement, on interprète les choses. Mais cette interprétation, elle part d'un sentiment et d'une raison. Cette interprétation, qui vient de plusieurs lieux et qui va vers plusieurs directions, elle se doit d'avoir un garde-fou, de manière telle qu'elle ne se présente pas nécessairement comme un savoir, mais quelque chose qui donne du sens. Ça, c'est fondamental.
Vous avez connu Delsem ?
Non, je ne l'ai pas connu. Alors, c'est un médecin urologue, très attaché à sa terre liégeoise, et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, avait toujours rêvé d'être, de voyager, un peu comme Médecins sans frontières. Mais pour des problèmes de santé, il n'a pas pu le faire. Et on se dit qu'il a finalement voyagé dans sa collection. Et donc, il était à la rencontre de différentes cultures à travers les œuvres qu'il nous a données.
Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il achetait aussi en fonction de ce qu'il avait. Parce qu'il avait déjà, il savait ce qu'il aimerait provoquer, en fait. Hein. Et alors, il bougeait aussi ses œuvres. Donc, il ne gardait pas toujours les mêmes dialogues. Hein. Parfois, il vivait au milieu de toutes ses pièces. Hein. Donc, il avait un appartement, voilà. On est chez lui, en fait. Hein. Donc, c'est étonnant. Hein. Donc, ça, c'est clair, c'est une innovation. Hein.
Mais c'est quelqu'un qui ne vit plus.
Ah non, il est mort.
Réouverture du musée, elle. De Louvain-la-Neuve. Avec Vincent Blondel, Jean Gers, Anne Kéringen, Jean-Marc Botson, Étienne Descartes, Guy Duplat, Carole de Ferrière, Emmanuel Druard et Sylvie de Drever, ainsi que les voix de Ignace van de Vivere, 1938-2004, et d'Eugène Ruir. Enregistré en 1997 avec Lise Coirier. Réouverture du musée Elle de Louvain-la-Neuve par Thierry Junicot. Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.